Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Marine, maman éducatrice. On se retrouve aujourd'hui dans ce premier podcast pour parler de parentalité et de belle parentalité. La parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent. C'est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle et sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s'inscrit et dans le but d'assurer le soin, le développement et l'éducation de l'enfant. Cette relation adulte-enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d'obligations, morales, matérielles, juridiques, éducatives et culturelles, exercées dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en vertu d'un lien prévu par le droit, l'autorité parentale. Elle s'inscrit dans l'environnement social et éducatif où vivent la famille et l'enfant. Cette définition de la parentalité est validée et publiée en 2011 par le Comité national de soutien à la parentalité. C'est une définition qui m'a beaucoup aidée au moment où j'ai questionné ma place et mon rôle dans mon foyer. À l'époque, je n'étais pas encore maman, j'étais seulement belle-maman. Et forcément, la question de ma fonction s'est posée. Cette définition m'a apporté une partie de la réponse. On entend bien ici qu'on n'a pas besoin d'être le géniteur ou la génitrice d'un enfant pour avoir un rôle parental auprès de lui. C'est une définition qui est venue nourrir nos réflexions avec mon conjoint pour savoir comment se positionner et comment agir avec son fils qui avait 5 ans à l'époque. Il y a 3 attitudes possibles en tant que beau-parent. À convenir avec votre conjoint étant le parent de l'enfant. La première, c'est la coéducation. C'est le choix que nous, on a fait. Je vous expliquerai après pourquoi et ce que ça implique. La deuxième attitude possible, c'est l'accompagnement sans rôle éducatif. C'est une place un peu comme un ami de la famille, comme un membre de la famille, non proche qui vivrait au sein de votre foyer. Si vous étiez amené à vivre avec votre oncle, votre tante, c'est quelqu'un qui est là, qui est dans le quotidien de l'enfant, mais sans avoir de rôle éducatif réellement avec lui. C'est voilà, cette attitude-là également qui est possible. Et enfin, la dernière attitude qui est souvent mise en place quand les enfants sont plus grands ou quand le nouveau couple se crée une fois les enfants plus âgés, c'est la distance saine. On est là sur une relation de respect, de courtoisie et de vivre ensemble, mais sans obligation l'un envers l'autre et sans implication émotionnelle forte. Ce ne sont pas ces choses-là que nous avons choisies. Nous avons opté pour la coéducation pour plusieurs raisons. Alors la première, parce que mon beau-fils, Monsieur E, était âgé de 5 ans à l'époque, et que forcément, quand il est petit comme ça, il y avait un besoin d'une fonction maternelle à la maison qui soit suffisamment importante. Il était d'ailleurs demandeur, avant que j'emménage, à ce que je vienne pour être une maman dans la maison de papa. Voilà, c'était ces mots. Il y avait ensuite le fait que j'allais vivre avec eux. Hein, Catherine Audibert, qui est psychologue et psychanalyste, reprécise bien que c'est la vie commune du nouveau couple qui instaure la place du beau-parent. Et en vivant avec eux, c'est moi qui allais passer beaucoup de temps avec mon beau-fils, tout simplement parce que les horaires de travail de mon conjoint étaient plus difficilement aménageables et qu'il ne peut pas prendre ses vacances en même temps que son fils. Voilà, on savait déjà que j'allais avoir une place importante sur ces moments-là. Et enfin et surtout, ce qui a confirmé notre choix, c'est que nous avions à l'époque le désir d'un enfant commun et qu'on n'avait absolument pas envie d'une différence de traitement entre les enfants à la maison. On n'avait pas envie d'une famille à deux vitesses. On en parlera dans un prochain podcast, mais les relations fraternelles sont déjà suffisamment difficiles, la jalousie est déjà existante dans une fratrie, sans en plus venir rajouter cette question-là d'une place différente et d'une légitimité différente dans la famille. Donc voilà, on souhaitait vraiment une égalité de traitement entre notre enfant commun et ce petit garçon qui était là et qui était de toute façon, voilà, en demande de lien, en demande d'amour. Donc ce choix-là, une fois fait, n'a pas forcément été facile à assumer. Alors très facile à appliquer parce qu'en tant que tel, j'agissais dans la maison comme étant chez moi, puisqu'après tout, c'était aussi ma maison. Voilà, et en tant qu'adulte, alors oui, j'avais des obligations à l'égard de cet enfant, puisqu'il vivait sous mon toit, mais voilà, j'avais aussi le droit de poser mes règles, puisque je vivais dans ma maison. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement, mais qui peut bloquer parfois, notamment quand l'endroit où vous vivez a été la maison de l'ex. Alors de l'ex-conjoint, de l'ex-conjointe, hein, selon si vous êtes un homme ou une femme, mais voilà, c'est quelque chose qui peut poser question. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, vraiment, ça a été de prendre ma place, de prendre ma propre place, sans prendre la place du parent absent. Alors c'est beaucoup plus facile, évidemment, quand ça se passe bien avec, avec l'autre parent. Nous, c'était pas notre cas, ça se passait pas très bien. Elle refusait de me rencontrer pour échanger justement sur cette place et sur ce qu'elle attendait ou pas de moi. Donc voilà, on a eu des petites astuces, des petites choses à mettre en place. Et notamment, on a défini dès le début les sujets sur lesquels je pouvais ou pas intervenir. Également pour me protéger, hein. Quand on est beau-parent, on est obligé malheureusement de penser aussi au pire pour se protéger au cas où un jour il arrive le pire. Donc, définir des choses pour me protéger, mais aussi pour que mon beau-fils ne vienne pas me voir pour certaines questions et continue d'aller voir sa maman. Voilà, il y a d'autres choses qu'on a mis très concrètement en place. Par exemple, on a gardé. Il n'en voulait plus à un moment donné, mais on a insisté pour qu'il garde dans sa chambre une photo de lui avec son papa et sa maman sur la même photo. Pour qu'il, voilà, pour qu'il garde en tête que c'est ça son entité familiale de base et que moi je n'étais finalement qu'un bonus dans sa vie, que moi j'étais juste du plus. Et il a fini par s'en saisir très bien et par comprendre la distribution un peu des rôles et des tâches. Le seul endroit où on a pu avoir un problème, c'est sur tout ce qui touche à la scolarité. Tout simplement parce que vous le savez maintenant, si vous me suivez sur mon site, sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, je suis éducatrice spécialisée, je me suis fortement spécialisée dans la scolarisation des personnes à besoins particuliers. Et il se trouve que c'était le cas de ce petit garçon-là, il avait des besoins particuliers et le papa était en demande que je vienne aider, aiguiller, donner mon avis sur le sujet de la scolarité. La maman était d'accord pour que je participe aux différentes réunions, d'autant plus que c'est moi qui m'occupais des devoirs à la maison. Et voilà, il se trouve avec le temps qu'est ressorti le fait que non, la maman n'était pas vraiment d'accord et que du coup ça a créé plus de tension qu'autre chose. Donc voilà, je me suis un peu retirée, on a fait un peu marche arrière là-dessus, je me suis retirée des rendez-vous et mon avis est quand même demandé par mon conjoint, mais quand on est voilà, au sein de la cellule familiale, avant les réunions, pour avoir mon avis sur des sujets un peu plus précis. Y a des choses que je ne faisais pas par rapport à mon beau-fils. Tout ce qui était communication fonctionnelle, que je ne faisais plus, donc comment, voilà, qui le récupère, quand, où, tout ce qui est également transmission des informations importantes, notamment tout ce qui va être santé et urgence, voilà, où je laisse le papa gérer là-dessus, et les décisions de santé et d'école, même si, comme je donnais l'exemple pour la scolarité, le papa demande toujours mon avis. Pareil pour le choix des activités extrascolaires. Là, il me laisse même carte blanche à partir du moment où son fils a envie de faire une activité. Si j'ai envie de l'accompagner, il me laisse complètement le choix. cette belle parentalité, comme j'aime l'appeler, je pensais qu'elle serait très différente, en fait. Quand je suis devenue maman, je m'étais dit que ce serait vraiment deux rôles différents quand je suis tombée enceinte. Et tout au long de la grossesse, on s'est beaucoup posé la question, comme j'en parlais tout à l'heure, de cette question de deux vitesses, de famille à deux vitesses. Avec voilà, la question du conflit d'intérêts entre mon enfant, l'enfant de l'autre. Et en fait, pas du tout. Les choses se sont faites tellement simplement, tellement naturellement. Voilà, comme si quelque part on avait pu, en créant déjà une bulle de bienveillance avec cette parentalité, avec les rôles différents qui étaient les nôtres, comme si on avait déjà posé finalement le cadre complet, de nos vies d'adultes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les psychanalystes, alors je ne suis pas du tout pour le courant psychanalyste, mais ils ont quand même cette réflexion que je trouve très intéressante. Ils parlent de la parentalité comme d'une étape de développement de l'adulte. Et là où moi je fais le lien, c'est que ma belle parentalité m'a permis d'atteindre cette étape-là et du coup, je n'ai pas eu la sensation d'élever mon premier enfant, mais bien d'élever mon deuxième. Parce que le premier était déjà là, dans mon quotidien, d'autant plus qu'on est sur une garde alternée, il n'est pas là qu'un week-end sur deux, il est vraiment là régulièrement, on vit le quotidien ensemble. Donc voilà, cette bulle-là s'est faite et s'est créée vraiment dans la suite de ce qui s'est fait. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, tout ce que j'avais pu envisager de ma belle parentalité, tous les outils que j'avais pu mettre en place autour de l'écoute bienveillante, autour du respect de la place de chacun, autour de l'explicitation aussi des places et des règles inhérentes à chacun, était en fait complètement vrai pour ce qui était de ma fille. Voilà, ça a vraiment été déjà quelque chose de très apaisant pour moi, parce que je dois avouer que ça a été quelque chose d'assez stressant de me dire, bah mince, j'ai eu du mal déjà à être la belle maman que je voulais. Comment aujourd'hui transformer ça pour devenir maman sans perdre, voilà, sans perdre tout ce qu'il en était? Et en fait, pas du tout. Pas du tout, au contraire, vraiment les notions de fonction de parent, les notions de soutien de l'enfant, respecter l'enfant comme étant un individu à part entière, qui a besoin d'attention, d'écoute, de respect, avec ses habitudes, son histoire, c'est vraiment quelque chose en tant que parent que je continue à vivre avec mon bébé. Quand on parle d'une manière un peu plus générale des fonctions tenues par les parents à l'égard de leurs enfants, on parle de procréation, de nourrissage, d'éducation, d'attribution d'identité, d'accès au statut de l'adulte. Ça, ce sont vraiment les choses que l'on a à faire en tant que parent. Mais une fois qu'on met la procréation de côté, on le fait aussi en tant que beau-parent. Et vraiment, toutes ces réflexions-là, toute l'attention portée dans mon quotidien à mes enfants, puisque c'est effectivement le terme que j'utilise aujourd'hui, j'ai des enfants, c'est quelque chose de primordial, de lisse et de tellement nourrissant. Ma parentalité m'a réellement apporté quelque chose sur le plan humain, sur le plan affectif. Et je ne peux pas dire que ce soit que la parentalité, ma belle parentalité également. Et si aujourd'hui j'ai quelque chose à dire et à conseiller à tous les beaux-parents, c'est que si votre choix est celui d'être dans l'éducation de votre beau-fils, de votre belle-fille, alors allez-y, parce que c'est, voilà, c'est juste une place absolument géniale qui va vous nourrir autant que n'importe quel autre choix éducatif que vous auriez fait. Donc allez-y, et vous vous rendrez compte qu'en fait, cette belle parentalité, c'est la même chose que la parentalité, c'est simplement notre métier de parent et comment on est parent au quotidien. Votre parentalité, votre belle parentalité, c'est simplement les actes que vous posez au quotidien pour prendre soin des enfants de votre foyer. Et qu'il soit de vous ou qu'il soit de votre conjoint, vous vous rendrez compte que vous ne faites pas à manger différemment pour l'un ou pour l'autre. Vous ne faites pas le linge différemment pour l'un ou pour l'autre si vous avez effectivement fait le choix de faire le linge. Voilà, vraiment, allez-y et concentrez-vous juste sur ce qu'est le métier de parent pour vous. Voilà comment moi je l'ai ressenti. Avant de terminer, je voulais vous partager quelques ressources qui, moi, m'ont aidé justement et continuent de m'aider à l'heure actuelle sur cette question des rôles et des places de parents, de beaux-parents. Il y a d'abord le club des marâtres, parce que oui, il y a un club des marâtres. Il y en a dans plusieurs régions de France, mais elles sont au national très disponibles par email. Vous avez également possibilité de les appeler si vraiment vous êtes dans une situation de marâtre compliquée. C'est des lieux d'échange, de partage, d'expérience avec d'autres parents, d'autres beaux-parents, toujours remplis de beaucoup d'humour, de légèreté, qui nous permet de prendre du recul sur notre place de beaux-parents, même si encore une fois, vous verrez que ça vous nourrit aussi en tant que parent. Il y a également un livre, alors, qui pour moi était un véritable coup de cœur, qui s'appelle « Famille recomposée, un défi à gagner », que j'ai dévoré. Voilà, qui m'a apporté énormément de réflexions, de questionnements. Et enfin, je vous invite à aller lire un article de Carpe Diem qui s'appelle « Être non-parent ». Voilà, si vous avez l'opportunité d'aller lire cet article, elle prône le fait de ne pas être parent. Alors vous allez dire, c'est un peu à l'opposé de ce que je viens de vous échanger, de vous partager, mais en fait, pas tant que ça. Puisque c'est juste une autre façon, un autre point de vue sur ce que c'est que d'être un adulte dans la vie d'un enfant dont les parents sont séparés. Voilà, j'espère que ce petit échange vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Si vous avez des questions sur le thème de la belle parentalité, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous retrouverez bien évidemment le nom des articles, les liens des livres, sur la description de ce podcast ou bien sur le site marinemamaneducatrice.com. J'y ajouterai également la version écrite de ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager si vous pensez que ça peut aider d'autres parents. On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode de ce podcast qui concernera le fait de devenir grand frère ou grande sœur. Et voilà, quelles sont les petites choses que l'on peut mettre en place, nous, en tant que parents, pour aider nos enfants à mieux vivre cette étape de leur vie et ce changement de place et de rôle, encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.